au nom du laboratoire Migrinter, je suis très heureux de pouvoir remercier de vive voix l'espace Mendès France qui nous accueille pour la dernière conférence de cette année qui porte donc un cycle de conférences, un vieux cycle de conférences qu'on organise maintenant depuis 5 ou 6 ans, je ne sais plus, qui consiste à faire venir des chercheurs qui nous exposent leur travail. Alors, les étudiants le savent beaucoup, les conférences ont un peu évolué. Au départ, elles s'intitulaient « Histoire et mémoire des migrations en région » et aujourd'hui, elles traitent beaucoup plus sur les ateliers du chercheur, la façon avec laquelle des recherches pertinentes, intéressantes dans le domaine des migrations sont menées et comment les chercheurs ont répondu aux problématiques qui étaient les leurs. Donc, dans cette opération de dévoilement des ateliers du chercheur, on reçoit ce soir Victor Pereira et on est ravis de l'avoir. Donc, merci à toi d'être venu jusque-là. Victor est maître de conférence à l'université de Pau, jeune maître de conférence qui a fait sa thèse, tu as terminé en 2007 ? Ouais, en 2007, qui a fait sa thèse sous la direction de Patrick Veil, de mémoire.
Non, Serge Bernstein.
Ah, Serge Bernstein, pardon. À Sciences Po, ça commence bien, à Sciences Po, et qui a publié récemment les travaux de sa thèse aux presses de Sciences Po, là je ne me gourre pas. Donc Victor va nous présenter une conférence qui porte sur l'immigration portugaise et ses liens avec le pouvoir de l'époque. Donc vraiment, Victor, tu as une heure et mille merci à toi une fois encore et merci à vous d'être présent.
Ah,
on me dit Monsieur Simon est là, elle est très contente. Donc, ad Gilda Maiorem Gloriam.
Je fais partie du fan club.
Merci en tout cas à vous.
Tout d'abord, bonsoir, merci d'être venu. Je vais commencer par remercier à la fois Yann et Anne Bonnefoy de m'avoir invité et de m'avoir permis de venir jusqu'à Poitiers, de ma très très loin campagne béarnaise. Très joli, effectivement. Donc, comme Yann vous l'a dit, je vais parler sans PowerPoint sur, je crois que le titre, c'était « Comment construit-on un programme de migration ?» Donc, je vais commencer par vous présenter un peu comment j'en suis arrivé à cette thèse et à ce questionnement. Et comme on discutait un peu avec Yann, au début, quand on parle, comme maintenant, après 5 ans, après avoir terminé ma thèse, on a souvent une sorte de regard a posteriori sur « on savait très bien où on allait », c'était exactement ça qu'on voulait faire. On avait tout lu, on connaissait tout, et donc on pouvait déjà se placer en fonction d'un champ qui préexistait. Évidemment, ce n'est pas le cas. Donc il faut prendre ce que je vous dis avec beaucoup de pincettes. Mais si j'essaie d'être honnête, la situation quand j'ai commencé ma thèse était d'une certaine insatisfaction vis-à-vis de la littérature sur l'immigration en France. Et notamment, pour citer une œuvre, mais parmi d'autres, notamment d'un livre d'un auteur que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Catherine Vitol de Vinden, qui s'appelait « Les émigrés et la politique ». Un livre qui était publié, qui est venu chez vous, un de ses plus anciens livres, qui date de 1988, et ce qui était étonnant, c'est la politique, c'était seulement la politique française en France. Tandis que pour beaucoup d'immigrés, quelle que soit leur nationalité d'origine, la politique qui peut aussi les intéresser, c'est la politique du pays d'où ils viennent. Et donc, ce qui, moi, dans beaucoup de livres, ce qui m'interrogeait, c'est le fait qu'on appréhendait les migrants seulement en fonction du pays d'origine. Et l'État qui contraignait, la tyrannie du national, pour prendre une expression que vous connaissez de Gérard Noriel, c'était seulement la tyrannie du national local. En l'occurrence, les Portugais que je voulais étudier, ils étaient seulement pris en compte à travers le prisme de l'État français. Et moi, je voulais comprendre comment un État d'origine perçoit ces migrants à l'étranger. Et ce qui m'intéressait d'autant plus, c'est que l'État que je voulais étudier, et à l'époque où je voulais l'étudier, c'était une dictature. Je reviendrai sur ça en 2 secondes. Entre-temps, le problème quand vous faites une thèse, c'est qu'au début, vous pensez que vous êtes novateur et vous l'êtes rarement, voire jamais, et qu'entre-temps, pendant que vous faites votre thèse, il y a beaucoup de travaux sur la même question qui ont été faits. Par exemple, pendant que je faisais ma thèse, il y a le livre collectif de Nancy Green et de François Veil sur citoyenneté et immigration. Il y a quelques années, Stéphane Dufoy qui a publié Loin des yeux, près de, je ne me rappelle plus du titre exactement, Près du cœur, Loin des yeux, près du cœur, qui traite aussi de ces questions. Donc, vous voyez, là, je ne suis plus très original sur ce type de questionnement. Et donc, comme je vous le disais, ce qui m'intéressait, c'était l'immigration portugaise. Bon, je ne vais pas vous mentir, c'est parce que mes deux parents sont portugais que ça m'intéressait plus que l'immigration camerounaise ou chinoise ou de Taïwan, et comme je le disais, le portugais, ça me paraissait plus simple. Et parce que l'immigration portugaise, qui a été étudiée notamment à Poitiers par différents chercheurs, est assez particulière. C'est-à-dire qu'en France, jusque dans la fin des années 50, il y a eu assez peu d'immigration portugaise vers la France. Il y en a eu, mais ça n'avait jamais dépassé les 50 000 personnes à la fin des années 20. L'immigration portugaise se dirigeait plutôt vers d'autres pays, notamment vers le Brésil ou les États-Unis, mais surtout vers le Brésil. Et c'est à partir de la fin des années 50 jusqu'en 74 qu'il y a eu 900 000 Portugais qui sont arrivés en France. 900 000, vous voyez, en 15 ans, ça fait des chiffres assez considérables. L'acmé de ce flux, c'est en 69, 70, 71, où il y a plus de 100 000 Portugais qui arrivent chaque année en France. Quand je travaillais aux archives, notamment, j'avais les listes de l'ONI sur les Portugais qui arrivaient chaque jour à Hendaye, la frontière avec l'Espagne. Ça faisait 400 migrants qui arrivaient pour la première fois, tous les jours. Vous imaginez si aujourd'hui, il y avait des migrants qui venaient à 400 par jour en France, ça prendrait 25 minutes du journal télévisé et ça ferait peur à tous les ministres de l'Intérieur et à tout le gouvernement. Quand on parle de 40, déjà, on trouve que c'est beaucoup, 400 par jour. Pour vous donner un autre chiffre, 100 000 par an, c'était énorme si on considère que le Portugal avait un peu moins de 9 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'en 70, c'est 2% de la population portugaise qui immigre. Je vous laisse faire les calculs avec la France, par exemple, actuellement, ça ferait des chiffres assez considérables. Et donc, ce qui m'intéressait, c'est de voir comment un État, une dictature, avait réagi face à un départ aussi massif de sa population. Et ça m'a interrogé d'autant plus qu'une grande partie de ces migrants, 550 000 environ, sont venus clandestinement. C'est-à-dire qu'ils sont partis de leur pays sans aucun passeport. Et qu'ils étaient à la fois clandestins vis-à-vis du Portugal, vis-à-vis de l'Espagne et vis-à-vis de la France. Ils étaient clandestins vis-à-vis de trois pays qu'ils quittaient, qu'ils traversaient et dans lesquels ils rentraient. Donc comment cet État a réagi ? Une autre question, mais là, je l'avais moins présente à l'époque, c'est comment on considère l'État portugais. C'est-à-dire qu'au Portugal, il y a eu le même dictateur pendant 30 ans, qui s'appelait António de Oliveira Salazar, qui est président du Conseil, c'est-à-dire un dictateur, de 1932 à 1968. Et au Portugal, les débats historiographiques actuels, très présents, très prégnants, qu'on retrouve même dans la presse quotidienne, c'est notamment de savoir si le régime salazariste est fasciste ou pas. Et surtout, tout est rattaché à la figure de Salazar. C'est-à-dire que je vais vous donner comme ça une liste de films, oui aussi, mais des livres. C'est Salazar et le football, Salazar et les femmes, le sexe dans le temps de Salazar. Je pourrais vous donner comme ça à l'époque de Salazar. Ça vend bien, vous imaginez, sexe et Salazar dans la même phrase, ça vend énormément. Donc tout est vu en fonction de Salazar et de son pouvoir et de la vision que Salazar pouvait avoir du football, des femmes, de la sexualité, etc., etc. Ce qui tend à réifier extrêmement l'État. Et ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est comment l'État, même dans une dictature, peut être un espace social rempli de conflits et de manière différente d'appréhender certains phénomènes. Pour en venir au sujet de la conférence, comment construit-on un problème de l'immigration ? Sur ça, même si je suis, et je m'en excuse tout de suite, historien d'origine et de formation, je suis peut-être le seul. Ah non, Yann. J'ai quand même essayé d'avoir une certaine réflexivité vis-à-vis du sujet, et notamment vis-à-vis du sujet de l'immigration. C'est-à-dire que notamment, quand vous lisez ce que vous avez dû faire, tout ce qu'on va appeler, pour aller vite, la sociologie constructiviste, avec tous les titres sur l'invention d'eux, l'invention de l'illettrisme, l'invention de l'alcoolisme, l'invention de la folie, etc., etc., c'est qu'il y a des processus, et un processus, un phénomène social, n'est pas toujours considéré comme un problème public. Un problème public, c'est-à-dire un phénomène, comme l'alcoolisme, comme la drogue, comme les gens qui roulent en vélo sans casque, comme les gens qui toussent quand ils parlent dans un micro, ne sont pas vus comme un problème politique qui amène l'État ou une partie de l'État à intervenir, à créer des structures, à créer des directions, à créer des ministères, à créer des polices spéciales, etc. etc. Et donc, il faut, pour qu'un phénomène soit considéré comme un problème qui amène l'intervention de l'État, parce qu'on considère qu'il est nocif, qu'il n'est pas normal, qu'il y ait des agents qui se mobilisent pour transformer ce phénomène en problème. Il y a une œuvre fondamentale qui a été traduite il y a quelques années en France, qui est l'œuvre de Joseph Gosfield, sur les accidents de voiture aux États-Unis dans les années 60, si je ne m'abuse, qui montre bien comment des gens se mobilisent, des entrepreneurs se mobilisent pour transformer certains phénomènes en problèmes. Et là, en l'occurrence, ce que je voulais comprendre, c'est pourquoi l'immigration, à la fin des années 50 et au début des années 60, a été considérée comme un problème. On pourrait penser, comme ça, sans connaître vraiment le sujet, que l'immigration a pu être pensée comme une solution. C'est-à-dire qu'actuellement, notamment, ce qui est bien avec les sujets d'histoire, surtout quand ils ne sont pas trop anciens, c'est qu'ils gagnent parfois de l'actualité. Et comme vous le savez peut-être, au Portugal, depuis 2008, il y a une crise économique et financière assez importante qui a fait que le Portugal, qui notamment dans les années 80-90 avait connu un certain développement économique, qui s'est freiné à partir de 2001, qui est notamment est devenu un pays d'immigration alors qu'il avait été principalement un pays d'immigration, là je schématise un peu, et qui avait quasiment dans le discours public complètement occulté l'immigration. Ça peut vous paraître étrange, mais au Portugal, il y a eu d'abord un observatoire de l'immigration avant que soit créé un observatoire de l'émigration. C'est-à-dire que pour différentes raisons, on pourra en revenir après, l'immigration est complètement disparue des discours publics. Mais depuis 2008, il y a une croissance de l'immigration qui n'a jamais disparu. Et de nouveau, l'immigration apparaît dans les discours publics. Et pour une partie des autorités actuelles, l'immigration est une solution. C'est-à-dire que pour les 15, 16, 17%, ça augmente un peu tous les mois, de chômeurs qui existent dans le pays, le fait de pouvoir trouver un travail en Allemagne, en France, en Suisse, en Angola ou au Brésil apparaît comme une solution. C'est une façon d'exporter des chômeurs qui sont insatisfaits, qui coûtent de l'argent, notamment en allocation chômage, etc., quand on leur en donne, etc., etc. Alors qu'en années 50, 60, l'immigration n'est pas du tout construite comme une solution. Elle est construite comme un problème. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter en trois temps, évidemment, en bon historien, à partir de maintenant. Pourquoi a été construite comme un problème? Et surtout, par qui? C'est-à-dire qu'il faut faire une sociologie des acteurs qui se mobilisent pour transformer l'immigration en problème. Notamment, l'AIR, quand il travaille sur l'invention de l'illettrisme, il étudie les associations qui transforment l'illettrisme en un combat qu'il faut mener par le gouvernement. Il faut bien avoir l'idée que, surtout dans une dictature, tous les acteurs, tous les agents, comme vous voulez, ne sont pas égaux. C'est-à-dire que l'accès à l'espace public n'est pas égal. Il n'est pas égal non plus en France. Il y a des gens qui... Alors, je n'ai aucun avis sur le bien fondé ou pas de cette initiative et de ce qu'elle implique, mais il y a des gens en France qui montent sur des grues pour faire connaître leurs revendications, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça, je ne sais pas le... Au Portugal, salazariste, l'accès à l'espace public était très limité. C'est-à-dire, très limité, d'une part, car une grande partie de la population, grande partie, jusqu'à 40% de la population dans les années 60 est analphabète. Ça ne vous empêche pas d'intervenir dans l'espace public, mais ça fait de vous des gens avec moins de capitaux, de ressources, pour intervenir dans l'espace public. En écrivant aux autorités, de façon en écrivant de façon directe, sans être médié par le curé du village ou par le maire du village, etc. Ce n'était pas vous, des lecteurs, ni des contributeurs de la presse. Mais surtout, il n'y avait pas d'élections libres au Portugal, donc les élections, qui sont un moyen de faire remonter un canal non-démocratie plus ou moins pacifique pour faire remonter des revendications, des messages, n'existaient pas. C'est-à-dire que la grande partie de la population portugaise ne pouvait pas voter. Les syndicats n'étaient pas libres et étaient plus ou moins contrôlés par le patronat. Et tout ce qui était manifestation était interdite. Donc, pour une grande partie de la population, il était impossible d'exprimer ses opinions et de désigner tel ou tel phénomène comme un problème public. Notamment pour une grande partie de la population qui à vivre dans la misère, de transformer la misère en problème public. Si vous lisiez la presse des années 60 au Portugal, il n'y avait pas de misère. À la limite, si vous lisiez la presse dans les années 60, vous pensiez que la misère était en France et non pas au Portugal. Vous verrez pourquoi. De plus, Notamment, un des moyens, un instrument pour présenter, désigner les pouvoirs publics, c'est la presse. La presse portugaise était censurée. Et notamment, les journalistes recevaient souvent des consignes sur les sujets qu'ils ne devaient pas traiter ou comment ils devaient traiter certains sujets. En ce qui concerne l'immigration, j'ai un peu regardé un peu ce que faisait la censure. D'une part, tout ce qui présentait l'immigration comme bénéfique était censuré. On ne pouvait pas dire, ou très rarement, dans les petits canards locaux, etc., que l'immigration était un bien, parce que les gens pouvaient trouver un emploi à l'étranger. Et on voit là. Ça n'apparaissait quasiment jamais. Et surtout, les journalistes et les autorités donnaient des consignes aux journalistes en leur disant qu'il faut, si vous parlez de l'immigration, il faut juste parler des éléments négatifs de l'immigration. Quels sont les éléments négatifs ? Que les gens en France se font exploiter, qu'ils vivent dans des bidonvilles, que pour aller en France, il faut utiliser des passeurs qui sont dessinés en bouc émissaire parce qu'ils sont, ils volent les migrants, ils les abandonnent au milieu des montagnes, ils leur prennent des sommes considérables. Et il ne fallait surtout pas parler du fait qu'il y avait du chômage au Portugal et qu'il y avait de la misère. Donc, si vous lisez la presse de l'époque, le Portugal, c'est un peu un pays Potemkin. Ça veut dire que c'est un pays où il faisait bon vivre et que notamment le pays le plus horrible, si on suit la presse, c'était la France. Il y avait des bidonvilles de Champigny, où il y avait 12 000 Portugais au début des années 60, où les gens se faisaient exploiter par un patronat très cynique, alors qu'au Portugal, selon la presse, il n'y avait ni bidonville, alors qu'il y en avait, et il n'y avait pas de patronat qui exploitait la main d'œuvre, alors que ça ne manquait point. Donc, la façon de désigner l'immigration par la presse faisait que la presse était considérée comme un problème. Et très souvent, il y avait tout un discours paternaliste. C'est-à-dire que dans la presse, on disait souvent « nos émigrants, nos Portugais, nos paysans ». Et l'image qui était ainsi faite, je reviendrai un peu plus tard, c'est que la dictature salazariste a développé une image du peuple. Le peuple, selon quand on reprend les discours de Salazar et des élites du pays, le peuple était bon et obéissant. Mais il lui manquait un peu de jugeote et d'esprit critique. Et il était très souvent dépeint comme un enfant. Ce qui permettait de naturaliser le pouvoir de la dictature. La dictature se présentait comme une dictature paternaliste. Et notamment, Salazar se présentait comme une personne qui savait dominer ses propres passions. Et comme il dominait ses propres passions, il pouvait dominer les passions du peuple portugais. Et notamment, la dictature salazariste est souvent présentée en opposition à une image forgée de la Première République, qui est une Première République au Portugal en 1910-1926, où il y a eu beaucoup de mouvements sociaux, beaucoup de grèves. Et on disait, quand les Portugais sont laissés à eux-mêmes, ils se révoltent, ils font des grèves, ils deviennent anarchistes. Tant qu'il y a une figure forte et paternaliste, ils se portent bien. Et donc cette image du Portugais infantile faisait qu'il fallait notamment protéger les Portugais de tout. Les protéger des passeurs qui trompaient les migrants en leur promettant des bons emplois chez Renault ou à Clermont-Ferrand, chez Michelin, alors que ce n'était pas vrai, alors que c'était en partie vrai quand même. Qu'il fallait protéger les migrants de Renault et de Michelin en France, etc., etc. Tous ces discours qui les tiennent, donc vous l'avez vu, la presse, qui est plus ou moins aux ordres, mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est les franges de la population portugaise qui ne veut pas voir ces gens partir. Et qui ne veut pas voir ces gens partir, ces migrants qui, pour aller vite, viennent en grande partie de des zones rurales du centre et du nord du pays, donc souvent des petits paysans propriétaires de leurs terres, mais qui travaillent aussi soit en fermage, soit en métayage dans les plus grandes propriétés, qui ne veut pas qu'ils partent. D'une part, les gros propriétaires, qui les utilisent comme main d'œuvre saisonnière ou ponctuelle, et d'autre part, la petite industrie, qui est implantée dans le nord, un peu en archipel, petite industrie textile et métallurgique, qui a besoin d'une main d'œuvre paysanne, en situation de polyactivité, donc c'est-à-dire qu'il travaille à la fois sur ses terres, à la fois dans l'industrie, et utiliser une main-d'œuvre en situation de polyactivité, il n'y a pas qu'au Portugal, en Vendée, dans le nord d'Italie, etc. Il y a le même cas, ça vous permet d'avoir des salaires très très bas. Parce que les paysans, ce qui est bien avec eux, c'est que vous pouvez les payer moins cher, parce qu'ils trouveront toujours à manger, ils ont leurs terres, et s'ils n'ont plus d'emploi, si vous avez besoin de dégraisser, ils retourneront à leurs terres. Ce n'est pas un prolétariat urbain comme il peut y avoir dans certaines métropole. Et donc, ces fragments des élites portugaises transforment l'immigration en problème. Comment ils font ça ? Ils écrivent des lettres aux autorités. Alors, moi qui ai travaillé dans les archives Salazar, du ministère de l'Intérieur, etc., on retrouve des dizaines de lettres de propriétaires, d'industriels qui disent, grosso modo, nous n'avons plus de main-d'œuvre. Toute la main-d'œuvre est partie. Et qui présentent le Portugal, c'est ça dès la fin des années 50, hein, alors que les flux migratoires n'ont pas dépassé les dizaines de milliers, présentent le Portugal, il n'y a plus d'hommes, tous les hommes sont partis en France, il n'y a plus que des femmes, des enfants et des vieillards. Ce n'est pas vrai, mais c'est ainsi qu'ils le présentent. Ils le font aussi, je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'élection, mais qui votait, c'était quand même les gens qui avaient un peu d'argent. Donc, c'est aussi un canal d'expression. Et notamment, et ça c'est en faisant des entretiens avec des personnalités politiques qu'on s'en rend compte, c'est-à-dire que le monde des élites est un monde, si vous connaissez sûrement les travaux des Pinson-Charlot sur la bourgeoisie française, etc., c'est un monde de connexion, de sociabilité. Et donc, parfois, ça ne passait pas par l'écrit, en fait. C'est-à-dire que quand le ministre de l'Intérieur allait faire une tournée en province, inaugurer un hôpital, inaugurer une gendarmerie, inaugurer tout ce que vous voulez, les élites locales allaient le voir et allaient exprimer leurs problèmes. Même chose vis-à-vis des maires qui faisaient une sorte de courroie de transmission entre ces élites locales et le ministère de l'Intérieur. Même chose avec les gouverneurs qui sont une sorte de préfets. C'est-à-dire qu'il y a énormément de sociabilité qui ne sont pas vraiment, qu'on ne voit pas dans les archives, mais qui sont très puissantes et qui font que les élites étatiques, ceux qui sont au gouvernement, ceux qui sont au ministère, prennent ça au sérieux. Et ces élites gouvernementales prennent ça d'autant plus au sérieux que quand on fait une sociologie de ces personnes, on se rend compte que beaucoup d'entre eux viennent de ces milieux. Notamment les propriétaires agricoles sont surreprésentés à l'Assemblée nationale. Il y avait une Assemblée nationale qui n'a pas beaucoup d'importance, mais notamment son rôle, c'était ça, de faire remonter les problèmes pour ces élites locales. Parmi les ministres, et notamment le premier d'entre eux, Salazar, venait aussi d'un milieu donc plutôt pauvre, mais venait d'un milieu rural. Et donc, vous avez des gens qui se mobilisent pour transformer un phénomène en problème public et qui trouvent une oreille très attentive de la part de personnes qui ont la même trajectoire sociale et qui sont très, très soucieux de maintenir l'appui de cette bourgeoisie agricole pour aller vite. Et pourquoi ils sont d'autant plus soucieux de maintenir cette bourgeoisie agricole? C'est que, je ne vais pas vous faire une histoire de la dictature, c'est que dans les années 60, Salazar, qui est au pouvoir depuis bientôt 30 ans, commence à connaître certaines désaffections. Pour aller vite, hein, les deux principaux piliers du pouvoir de Salazar, c'est les militaires, qui ont fait un coup d'État en 1926 et qui ont amené Salazar au pouvoir, et l'Église catholique. Les militaires, depuis 1958, il y a plusieurs coups d'État militaires. Et en 1961, rien que moins que le ministre de la Défense nationale, le ministre de l'Armée, le ministre de la Marine, etc. Quasiment tous les ministres militaires tentent un coup d'État contre Salazar. Donc ça montre que Salazar, il faut qu'il fasse attention de ce côté-là. Et d'autre côté, l'Église catholique, dont l'élite est très conservatrice, certains pans de cette Église catholique prennent aussi leur distance vis-à-vis du régime. Et notamment l'évêque de Porto, qui est la deuxième ville du pays, qui écrit une lettre très critique à Salazar en 58 et qui est exilé. C'est-à-dire que l'évêque ne peut plus rentrer au Portugal alors qu'il avait été à Rome pour son travail. Et donc, comme l'Église catholique n'est plus très fiable et comme les militaires sont plus très fiables, Salazar veut à tout prix que cette bourgeoisie agricole, ces élites locales, lui soit fidèle. Et donc ça va expliquer beaucoup de choses que je vais vous dire par la suite. C'est quand vous avez une revendication, vous dites rarement que c'est pour votre intérêt privé. Vous dites rarement que c'est pour vos profits à vous. Parce que pour la bourgeoisie agricole, pour les propriétaires et pour les employeurs, le problème est assez simple. C'est-à-dire que une partie de leur pouvoir économique venait de la surexploitation de cette main-d'œuvre rurale. Et comme une partie de cette main-d'œuvre rurale partait, ceux qui restaient au pays et qui n'avaient pas encore émigré étaient moins nombreux et donc pouvaient demander de meilleurs salaires et obtenir de meilleurs salaires. Et surtout, comme le regrettaient certains employeurs, pouvaient se montrer moins dociles. Je m'explique. C'est-à-dire que jusque dans les années 50, les employeurs avaient qu'à choisir parmi un excédent pléthorique de travailleurs. Et c'était plutôt les travailleurs qui étaient en concurrence entre eux pour avoir un emploi, plutôt que l'inverse. Quand l'émigration a augmenté, ce sont désormais les employeurs portugais qui sont quasiment en concurrence avec les employeurs français pour cette main-d'œuvre. Et la population qui reste a de plus grandes marges de manœuvre. Et notamment, je vous parle en docilité. C'est-à-dire que très souvent, on présente l'immigration comme une soupape de sécurité qui fait que les insatisfactions sont exportées. En fait, on se rend compte, notamment à la fin des années 60, il y a des mouvements de grève sauvage dans les industries au Portugal. Et la police politique fait des enquêtes très sérieuses pour comprendre pourquoi il y a des grèves alors qu'il y en avait assez rarement. Et une des raisons qui est mise en avant, c'est que d'une part, les immigrés qui sont venus en France, quand ils rentrent au pays, ils leur racontent comment c'est en France, qu'ils ont des congés payés, qu'ils ont le droit de faire grève, même s'ils le font rarement, mais ils ont le droit. Ils ont des allocations familiales, etc., etc. Ce qui fait que les travailleurs portugais ont une certaine insatisfaction et se disent qu'ils pourraient éventuellement obtenir ça. Et surtout, ils savent qu'ils peuvent demander plus de droits et que s'ils n'obtiennent pas, ils n'auront qu'à immigrer derrière. Et donc, évidemment, pour les employeurs, à la fois, à cause d'immigration, ils ont une main-d'œuvre plus chère et un peu plus indocile, ce qui leur pose problème. Et donc, dans tous les discours, ils vont dire qu'il y a un problème de main-d'œuvre, un manque de main-d'œuvre. En fait, je ne sais pas si vous avez, peut-être que vous l'avez lu, ou que vous l'avez évoqué, mais il y a un ouvrage très intéressant, c'est l'œuvre de Nicolas Jounin sur un chantier interdit, qui a fait une ethnographie sur les bâtiments publics en France, dans les grandes entreprises, dans les années 2000, et qui montre notamment qu'un des discours très prégnants des grandes entreprises, Vinci, Bouygues, etc., etc., c'est de dire qu'il n'y a personne qui veut travailler sur les chantiers, et qu'il y a un manque de main-d'œuvre. En fait, il faut très largement relativiser ce genre de discours. En fait, ce n'était pas un manque de main-d'œuvre, c'était un manque d'excédent de main-d'œuvre. C'est-à-dire que la main-d'œuvre, il y en avait toujours, mais elle n'était jamais au prix et à un niveau de docilité qui était désiré par ces différents employeurs. Et donc, comme ils ne disaient pas toujours ça dans ces termes, ils ont utilisé quatre grands... On peut retrouver dans toute cette littérature, tous ces écrits, toutes ces lettres, tous ces discours qu'on retrouve à l'Assemblée, quatre grands points. Le premier, c'est de dire qu'il faut interdire l'immigration. Et pourquoi il faut interdire l'immigration ? Car l'immigration nuit à l'intérêt national. Ils reprennent un discours très mercantiliste, c'est-à-dire que la puissance d'un pays, c'est le nombre de la population. Plus le souverain de sujet, plus il est puissant. C'est des conceptions du XVIIe siècle, mais qui ont encore valeur au Portugal en 1950. Et donc, tout ce discours sur l'intérêt général, il faut que nous soyons nombreux, il faut qu'il y ait... que nos enfants restent au pays, etc. Utiliser toujours l'intérêt général, ça permet de ne pas montrer qu'il y a un intérêt privé. Le deuxième point, c'est un discours sur la moralité. Quand vous lisez, c'est toujours très étonnant, c'est toujours sur le discours sur la moralité. Comme vous le savez peut-être, le Portugal était un pays très catholique, avec un taux de pratiques religieuses, surtout au centre et au nord, très important. Au sud et dans les villes, c'était déjà nuancé, mais dans le centre et du nord du pays, c'était un tout très important. Et on disait que l'immigration, c'était la fin de la morale. Parce que ces Portugais, vous imaginez bien, ils allaient en France. France, pays qui était dépeint comme le pays de 1789, de la séparation de l'Église et du pouvoir, du laïcisme, des mœurs un peu dégénérées, un peu relâchées, on va dire, légères. Et je vous dis, toute l'image qui avait été construite par ces élites, la France était l'anti-Portugal. Et donc, on considérait que ces immigrations étaient l'équivalent de perte de valeurs, de repères religieux. Et donc, que ces Portugais allaient venir en France, dans un pays où ils n'iraient plus à l'église, etc. Et qu'après, ils pourraient réintroduire au Portugal, comme une sorte de cinquième colonne, des maladies comme la laïcité ou comme l'athéisme. C'était la grande peur. Et ce discours sur la morale est important parce qu'en fait, ces fragments de la population, des élites, qui les mettent en avant, ce qu'ils veulent aussi montrer en parlant de morale, c'est montrer qu'ils sont supérieurs moralement. Parce qu'il y a aussi une lutte au sein des élites portugaises. Entre d'un côté, cette bourgeoisie agricole qui en perd de vitesse, mais aussi des nouvelles parties, fractions de l'élite, plutôt dans le monde industriel et financier, qui, elles, sont beaucoup moins réticentes, on le verra, vis-à-vis de l'immigration. Et tout ce discours sur la morale, c'est pour se montrer, nous, on représente le vrai Portugal. Le Portugal des valeurs, le Portugal catholique, etc., etc. Il y a eu beaucoup de mobilisations dernièrement sur des sujets que vous connaissez tous, qui ont mis en avant les valeurs, les morales, donc vous comprendrez très facilement. La troisième idée, c'est de dire qu'il fallait empêcher l'immigration, non pas pour défendre ses propriétaires, mais pour défendre la dictature en elle-même. C'est-à-dire que l'immigration était une menace pour la dictature. Et ça, évidemment, quand vous êtes dictateur ou quand vous êtes ministre de l'Intérieur, c'est un argument qui vous touche. Et comment, selon eux, l'immigration allait mettre à mal la dictature? Ces migrants, ils allaient en France. Ils allaient être complètement sans repère. Là, je reprends un discours. Désaffiliés, pour reprendre l'expression de Robert Castel. Ils n'auront plus le curé qui les connaissent depuis leur plus tendre enfance. Ils n'auront plus les propriétaires locaux, les notables locaux qui pourraient les guider, les prendre par la main. Là encore, je reprends les images. Et on craignait tout simplement que ces Portugais deviennent des communistes. Alors, communiste, Portugal, Salazar, c'était très large. Une fois que vous n'étiez plus pour Salazar, vous deveniez très rapidement communiste. Et donc, vous deveniez communiste. Et au Portugal, mais notamment Salazar lui-même, voyait une sorte de complot permanent contre le Portugal. Et voyait de nombreux militants du PCF, de la CGT, du PCP, du Parti communiste portugais, qui tentaient de politiser les Portugais en France. Et non seulement les migrants qui étaient en France deviendraient des opposants, auraient des idées démocratiques communistes, etc., mais le pire, c'est que ces gens ils retournent au Portugal. Ils retournent soit pendant les vacances, et donc je vous ai dit, ça a une influence indéniable, pas par la diffusion d'un discours lié à l'opposition organisée, mais sur la diffusion de nouvelles manières de voir, des nouveaux vêtements, des nouveaux styles de vie. Ça, ça a une influence considérable. Mais on craignait qu'ils soient une sorte de cinquième colonne, comme je vous ai dit tout à l'heure. Qu'ils répandent des idées démocratiques, qu'ils ramènent avec eux des journaux comme l'Humanité ou la version portugaise, etc. Et qui donc, le terme est souvent utilisé, d'épidémie. Que ce soit une épidémie communiste qui se répande dans des régions rurales qui, disait-on jusqu'alors, avaient été sauvées du matérialisme communiste. En plus, c'était des régions les plus, entre guillemets, conservatrices que provenaient ces gens. Ça, c'est la troisième idée. La quatrième idée, c'est la mise en exergue de l'unité. C'est-à-dire que l'immigration met à mal l'unité du pays. Et ça, c'est un élément très important. En règle générale, soit en dictature, soit en démocratie, il y a très peu de gouvernements qui sont pour la désunion de la population. On est tous pour la cohésion, pour l'union, l'intégration, etc. Mais dans une dictature comme la dictature sérieuse, c'est encore plus important. C'est-à-dire que le parti unique s'appelait l'Union nationale. Et une des rengaines de la dictature, c'est de dire que la dictature avait uni les Portugais qui avaient été divisés après, à partir de l'arrivée des idées libérales à cause des Français, à cause des invasions napoléoniennes au Portugal. Donc il fallait unir les Portugais. Et notamment, pour mettre en avant cette idée, dans de nombreux discours, de nombreuses lettres, il y a deux métaphores qui sont très utilisées. La métaphore du corps et la métaphore de la famille, qui ont toutes les deux une portée très réactionnaire, pour le dire vite. Vous verrez très simplement. On disait que les migrants, c'était des enfants qui partaient. Des sortes de fils prodigues, dans la meilleure des versions. Quand on utilise la métaphore de la famille, et qui était très souvent utilisée au Portugal, on disait que le père, c'était Salazar, et que les enfants, c'était le reste de la famille. Salazar, il s'était marié, il ne s'était jamais marié. On a toujours caché toutes ses relations amoureuses. Et parce qu'il était censé se dédier intégralement à la nation portugaise. Donc son épouse, c'était la nation portugaise. Donc vous avez le papa Salazar, la femme qui est la nation portugaise, et la reste de la population qui sont les enfants. Ça naturalise un régime autoritaire. C'est-à-dire que quand vous êtes enfant, normalement, vous n'êtes pas censé discuter les ordres du père. Et vous êtes censé obéir fidèlement à votre père. Et surtout, vous ne mettez pas votre père en élection. Vous ne votez pas pour votre père. Donc, de dire que c'était des enfants, ça, d'une part, ça les infantilisait, et ça montrait que ça brisait la famille portugaise qui devait être unie. La métaphore du corps répondait plus ou moins à la même logique. On disait souvent que l'immigration était une sorte de transfusion de sang ou une amputation d'une partie du corps. Pourquoi ? Même chose. C'est-à-dire qu'évidemment, un corps, ça fonctionne bien s'il y a du sang et il y a tous les membres. Bon, ça peut fonctionner aussi sans une jambe, sans deux jambes même, on peut même aller aux Jeux Olympiques. Mais, et tuer des gens, oui. A priori, ce n'est pas un idéal, entre guillemets. Et donc, même chose, un corps, ce n'est pas démocratique un corps. Le cerveau n'est pas élu par ses jambes et par les pieds pour les diriger. Donc, même chose. Discours naturalisant un pouvoir autoritaire. Et dans les années 61-74, il y avait une autre union qui était défendue. C'était l'union de la nation portugaise. Parce que le Portugal, jusqu'en 1974, est un empire. Et le Portugal est, entre guillemets, le dernier empire. Si on considère que la France n'est pas un empire actuellement, ni la Grande-Bretagne. C'est-à-dire que la France a encore des colonies. Les principales étaient l'Angola et le Mozambique, mais aussi la Guinée-Bissau et le Cap-Vert, et Timor. Et à partir de 61, il y a eu des guerres coloniales, des mouvements de libération anticoloniaux qui luttent contre la présence portugaise. Et Salazar ne veut en aucun cas décoloniser. Salazar avait un discours simple. L'Angola, le Mozambique, Timor, tout ce que vous voulez, c'est le Portugal. Et il n'est nullement question de décoloniser. Il n'y a pas de populations qui sont contre la présence portugaise. Ils voyaient derrière les membres des fronts de libération des communistes, soit de Russie, soit de Cuba, soit de la Chine, etc. etc. Mais en aucun cas, c'était des populations locales qui voulaient que les Portugais s'en aillent. Et pour ça, il y avait deux solutions, principalement. D'une part, une solution militaire. Ce qui fait qu'à partir de 61, l'armée, le contingent, va être envoyé dans les colonies. Et tous les jeunes gens, tous les jeunes Portugais, vont être amenés à aller se battre dans les colonies pendant, à partir de 68, pendant 2 ans. Le service militaire, à partir de 68, durait 4 ans, ce qui était un peu long. La deuxième solution qui était trouvée, c'était d'envoyer encore plus de colons, blancs, s'entend. C'est-à-dire qu'on considérait que plus il y aurait une présence européenne dans ces colonies, plus la présence portugaise serait pérennisée. Et donc là, vous voyez, c'est là où le bât blesse pour l'immigration. Tout le discours va être, il faut que s'il y a des excédents de main-d'œuvre au Portugal, si certaines personnes veulent connaître l'aventure, parce que très souvent on disait que les Portugais migraient par aventure, non pas parce qu'ils étaient pauvres, non pas parce qu'ils vivaient sous une dictature, non, non, c'est juste par esprit d'aventure. C'était évidemment réducteur et ça a dépolitisé l'immigration. S'il y a des Portugais qui veulent connaître l'aventure, il faut qu'ils aillent en Angola et au Mozambique. Et donc, toute l'immigration vers la France, mais aussi vers l'Allemagne, où vous voulez, était vue comme une déviation et comme une sorte d'atteinte à l'unité nationale. Et donc, un des principaux arguments est de dire qu'il faut interdire l'immigration parce que, une, elle retire des jeunes soldats, et effectivement, beaucoup de jeunes gens de 16, parfois même plus jeunes, de 15, 16, 17, 18, 19 ans, qui émigraient pour ne pas avoir fait leur service militaire. Et d'autre part, les gens qui partaient, c'est des gens qui n'allaient pas dans les colonies. Et donc ça, c'était les 4 principaux arguments qui vont être utilisés, répétés, dilués dès la fin des années 50 et au début des années 60. Et ces discours, cette mobilisation va être assez efficace. C'est-à-dire que dans les années 60, face à la montée de l'immigration, le gouvernement va prendre des mesures restrictives contre l'immigration. Il va essayer au maximum d'empêcher l'immigration légale, de quasiment l'interdire, même si elle n'est pas interdite de fait, et de lutter contre l'immigration clandestine. D'une part, ça va être fait en faisant que l'organisme qui s'occupe de l'immigration soit lié au ministère de l'Intérieur. Ça peut paraître étrange, parce que souvent, notamment en Espagne, l'Espagne voisine, l'institution qui s'occupe de l'immigration est liée au ministère du Travail et des Affaires sociales. Au Portugal, jusqu'en 70, l'institution qui gère l'immigration, c'est le ministère de l'Intérieur. Et notamment, jusqu'en 1968, le président de l'institution, qui s'appelle la junte de l'immigration, qui gère l'immigration, est un colonel de l'armée et qui est très peu ouvert à tout ce qui est bénéfice de l'immigration. Et l'objectif de cette institution, qui s'appelle la junte de l'immigration, donc, est d'empêcher l'immigration. Et elle tente par toutes les... et l'administration portugaise est très forte pour ça. Elle utilise des règlements, des décrets, des lois pour empêcher l'immigration légale. Et notamment, un des moyens qui est utilisé pour empêcher l'immigration légale, c'est le système des passeports. Jusque-là, rien d'étonnant. Très souvent, les pays demandent, exigent que vous quittiez un pays, vous ayez un passeport. Mais la particularité du Portugal, à cette époque-là, c'est qu'il y avait deux types de passeports. D'une part, un passeport ordinaire, qui était le passeport de touriste. C'est si vous vouliez visiter la Tour Eiffel, vous deviez demander un passeport de tourisme. Sauf que le système était fait pour que les classes populaires, c'est-à-dire les ouvriers et les paysans, qui constituent une grande partie de la population, ne puissent pas obtenir ce passeport de tourisme. Il y a un décret en 1944 qui est très clair. Ne sera pas délivré de passeport à tous les travailleurs ruraux et à tous les travailleurs dont le métier est caractérisé par l'emploi de la force physique, c'est-à-dire les ouvriers, etc. Et on considère que ces gens-là ne font pas de tourisme. C'est-à-dire qu'ils sont trop pauvres et qu'ils n'ont pas d'argent pour aller voir la Tour Eiffel. Donc, c'est un premier moyen de cadenasser le système. Et donc, pour les gens qui veulent émigrer, il y a un passeport d'émigration. Un autre passeport. Et pour obtenir ce passeport d'émigration, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'il y a une législation pléthorique. Il faut, j'ai compté, il fallait avoir jusqu'à 16 certificats sur des documents timbrés, signés par deux. Bon. C'était le parcours du combattant pour obtenir ce passeport. Et la junte d'immigration multipliait les chicanes administratives pour empêcher que les gens obtiennent ce passeport. Donc tout le système en place et qui a été renforcé était fait pour empêcher les gens de partir légalement. Et je vous ai dit aussi pour punir les gens qui partaient clandestinement. Et à partir de 1961, l'immigration clandestine, donc le fait de partir, de traverser la frontière du Portugal vers l'Espagne sans passeport, devient un crime. Jusqu'alors, c'était un simple délit. Et devient un crime. Et tous les migrants, tous ceux qui traversent la frontière, sont passibles de prison. Et ils peuvent rester jusqu'à 2 ans en prison. Ce qui montre un durcissement assez fort. Vous voyez, nous, on a l'habitude de voir les migrations clandestines en fonction du pays d'accueil. Des pays qui se transforment en forteresse pour empêcher les gens de venir. Là, au Portugal, c'est différent. Ça peut vous rappeler le cas que vous connaîtrez peut-être le plus, c'est le cas de la RDA, par exemple, avec la construction du mur de Berlin. C'est un pays qui empêche ses ressortissants d'aller librement à l'étranger. Et donc, l'immigration est considérée comme un crime, 2 ans de prison, et les peines qu'encourent ceux qui aident les migrants, c'est-à-dire les passeurs, les rabatteurs, etc., eux, ils peuvent encourir jusqu'à 8 ans de prison. Et les surveillances des frontières est entre guillemets renforcée, mais ça c'est plus dans la pratique, dans le discours coronatori, et c'est à la police politique de surveiller les frontières. Donc au début des années 60, on est dans un système où il est quasiment impossible d'obtenir un passeport d'immigration, très difficile. Et si on veut l'obtenir, c'est un parcours du combattant administratif. Et où l'immigration clandestine est criminalisée. Et où, normalement, les gens qui partent clandestinement ne peuvent pas être régularisés au Portugal. Mais ça, c'est dans les textes, ce ne sera pas le cas. Néanmoins, et c'est ce que font tous les travaux de sociologie constructiviste, très souvent, les problèmes évoluent dans le temps. Et en l'occurrence, au Portugal, cette situation avec une forte importance idéologique de la bourgeoisie agricole qui défend un Portugal agraire, un Portugal pauvre, un Portugal catholique, va perdre son importance. Parce que même les dictatures ne sont pas immuables et ne sont pas homogènes. Et à la fin des années 50 et début des années 60, commence à poindre au Portugal, ce qui poind aussi en Espagne, c'est une sorte d'élite qu'on va appeler, pour aller vite, technocratique. Des gens qui ont une vision complètement différente du Portugal et qui considèrent, notamment pour sauver la dictature, et ce qui va être le cas en Espagne avec l'Opus Dei, etc., et les élites technocratiques, que pour sauver la dictature, il ne faut pas maintenir le statu quo, mais au contraire, il faut tout changer pour que rien ne change. Vous connaissez cette expression qu'on sort tout le temps, tout changer pour que rien ne change. C'est-à-dire qu'il faut développer le pays, et pensez à la Chine notamment, il faut développer le pays, favoriser l'industrialisation du pays, pour que la dictature puisse perdurer. Et notamment, ce qu'ils font, c'est qu'ils défendent un rapprochement du Portugal avec l'Europe. C'est-à-dire que juste dans les années 50, le Portugal est un peu, alors je ne dirais pas en autarcie, ce n'est pas l'Albanie non plus, hein, mais un pays assez auto-centré, avec de très fortes protections douanières et avec un discours impérial, c'est-à-dire qu'il faut que le Portugal soit autonome avec ses colonies, ce qui est un horizon qui ne sera jamais atteint. Et à partir de la fin des années 50 et 60, il y a un courant de plus en plus puissant qui considère que l'Afrique, ce n'est pas vraiment le futur, et que le futur du Portugal, c'est vraiment l'Europe, et qu'il faut se rapprocher de l'Europe. Et ça passe notamment en 1959-60 par l'entrée du Portugal dans l'AELE, donc l'Association économique de libre-échange, européenne de libre-échange. Je ne vais pas rentrer en détail, mais c'est la CE, l'anti-CE, dirigée par les Anglais pour, avant qu'ils ne rentrent dans la CE. Et c'est déjà un changement capital. C'est-à-dire que toutes les lois très protectionnistes qu'il y a au Portugal de protection douanière sont appelées à être démantelées. Et donc ces nouvelles élites qui n'ont pas été formées en droit comme les précédentes, mais plutôt en économie, et même certains ont fait de la sociologie, ce qui devient dangereux, ou la géographie, voire pire, qui commencent à défendre un discours sur il faut développer le pays, il faut le moderniser, il faut augmenter la productivité, ça va complètement changer la manière d'appréhender le problème de l'immigration. Et au début des années 60, il y a un petit courant dans deux ministères principaux, le ministère des Corporations, qui est le ministère du Travail, et le ministère des Affaires étrangères, qui va dire l'immigration n'est pas le problème en tant que tel. C'est la façon dont nous gérons l'immigration qui est un problème. Pourquoi ? D'une part, en empêchant l'immigration, on s'interdit de bénéficier des effets positifs de l'immigration. Et il y a plusieurs effets positifs. D'une part, parmi ces technocrates, il y avait des gens qui appartenaient à ce qu'on appelle un catholicisme progressiste. C'est-à-dire des gens qui sont influencés par le Concile Vatican II et qui, notamment, le Concile Vatican II va développer toute une pensée sur le développement et l'épanouissement de l'homme, etc., etc. Qui considère notamment que, ce qui est une vision qui n'est pas acceptée par tous, loin de là, que le développement économique peut permettre aux populations de mieux vivre. Et qui ont un discours assez simple, qui est de dire on interdit l'immigration, mais c'est immoral. Pourquoi ? Parce qu'en interdisant l'immigration, on empêche à des gens d'obtenir à l'étranger des salaires, des conditions de vie qu'ils ne peuvent pas avoir au Portugal. Parce que le Portugal n'est pas assez développé, il n'offre pas d'emploi, etc. Et donc c'est quasiment criminel d'empêcher des personnes d'obtenir le seul moyen qu'ils peuvent avoir pour avoir une meilleure vie. Pour acheter des terres, pour nourrir leurs enfants, etc., etc. Donc il faut laisser cette immigration se faire. D'autre part, il y a d'autres personnes qui considèrent, d'une vision plus centrée sur l'État et les avantages de l'État, une pensée d'État, comme dirait Bourdieu, qui considèrent que l'immigration, c'est bien parce que ça va accélérer le développement du pays. Et notamment permettre une mutation industrielle. C'est-à-dire que jusqu'en les années 50, l'industrie qui existait au Portugal, elle n'avait pas le souci d'être, comme on dit maintenant, compétitive. Il n'y avait pas de Montebourg à l'époque. C'est-à-dire que les industries portugaises pouvaient produire les pires chaussures, les pires pulls à des prix non compétitifs. Ce n'était pas grave. Ils avaient des protections douanières énormes et donc ils avaient un marché captif, la métropole et la colonie, et ils n'avaient pas de concurrence. En plus, ils n'avaient pas besoin d'investir dans les machines. Parce que le système, d'une part, était, il y avait ce qu'on appelait au Portugal, le conditionnement industriel. C'est-à-dire que si vous étiez fabricant d'ordinateurs, j'invente, il n'y avait pas d'ordinateur au Portugal, vous aviez quasiment une situation de rente. C'est-à-dire que vous aviez quasiment un droit de vendre des ordinateurs et que si quelqu'un voulait entrer dans le marché des ordinateurs, il devait demander l'autorisation, que très, très souvent, il n'obtenait pas. Et donc, la plupart des industriels avaient des situations de rente. Il n'y avait pas de marché en tant que tel. C'est-à-dire que tout était organisé par l'État avec des quotas de production, des quotas de matières premières, etc. C'était un système très régulé. Mais ce qui fait que les entrepreneurs n'avaient pas besoin d'augmenter leur productivité. Et donc, notamment les industriels du nord du pays, n'avaient pas besoin d'avoir de belles machines achetées en Allemagne. Ils pouvaient avoir des dizaines d'enfants de 15 ans et de femmes de paysans qui produisaient qui avait des salaires très faibles, mais qui n'était pas très compétitif. L'entrée dans l'AELE va faire qu'il va y avoir une pression. C'est-à-dire qu'on va dire l'économie, l'industrie portugaise telle qu'elle existe, elle n'est pas compétitive. Et quand, dans les années 70-80, le Portugal s'ouvrira aux productions suisses suédoise, anglaise, elles seront terrassées. Et donc l'immigration a un énorme avantage. Fait que cet excédent de main-d'œuvre qui empêche la modernisation des structures productives va disparaître. Et que les entrepreneurs, qui jusqu'alors avaient des rentes de situation, vont devoir se moderniser. Et comme ils ne le font pas d'eux-mêmes, ils vont être obligés de le faire. Et dans beaucoup de rapports économiques, il y a une vision très darwinienne de l'immigration et de l'industrie. L'immigration tire à nos industriels des employeurs, et tant mieux. Donc, l'autre avantage de l'immigration, c'est qu'un des problèmes du Portugal dans cette optique de modernisation, c'est d'avoir une main-d'œuvre très peu qualifiée. C'est-à-dire qu'un des objectifs de Salazar n'était pas de bien éduquer la population. C'est-à-dire que la scolarité obligatoire jusqu'en années 60 était de 4 ans. C'est-à-dire qu'une grande partie de la population portugaise n'avait que 4 années d'éducation et qu'il y avait assez peu de collèges, de lycées, de formations professionnelles. Et donc que la main-d'œuvre portugaise était très peu qualifiée. Et donc, pour avoir une industrie plus moderne, ça pose un problème. Et dans l'esprit de certains, c'était plutôt un wishful thinking, c'est-à-dire que des choses dont on espère mais qui n'arrivent pas, on pensait que les migrants portugais qui allaient en France, travaillaient chez Renault, au bout de 5-10 ans, ils allaient revenir au Portugal et ils bénéficieraient d'une sorte de formation. D'une part, ce n'était pas vrai, parce que très souvent, les OS, ce n'est pas une qualification très poussée. Et dans le bâtiment, il y a beaucoup de Portugais qui travaillent en bâtiment. Et surtout, ceux qui étaient qualifiés et qui arrivaient à monter dans les structures d'entreprise en France, très souvent, ils ne revenaient pas au Portugal. Donc, en fait, ça ne fonctionnait pas trop. Mais néanmoins, au couvert d'accords de main-d'œuvre avec la France, le Portugal a réussi à se faire financer des écoles de formation professionnelle, etc. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, vous le connaissez tous et je ne vais pas trop développer, c'est les devises. C'est-à-dire que ces Portugais qui arrivent en France, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Surtout au début, qui c'était des hommes seuls et qui avaient leur femme ou leur famille au Portugal, ils ont eu de l'argent, beaucoup d'argent. Et évidemment, on considérait que c'était un bénéfice considérable dont le Portugal ne pouvait pas se passer. C'est-à-dire que cet argent, d'une part, il était capté par les banques portugaises. C'est-à-dire qu'il y a des banques portugaises, notamment en France, qui avaient acheté des camionnettes et qui faisaient le tour des bidonvilles de la région parisienne. C'est-à-dire qu'elles allaient à Champigny, comme sachant que le samedi matin et même le dimanche, c'est le tour des bidonvilles pour éviter à ces Portugais d'aller dans les banques, etc., là, à Paris, etc. Faisaient le tour de tous les bidonvilles. Et même chose au Portugal. Il y avait des camionnettes, parce que le système bancaire n'était pas très développé dans les régions portugaises, faisaient le tour des petits villages perdus dans la montagne et récupéraient l'argent que les familles de migrants avaient récupéré par divers moyens. Et tout cet argent que les banques avaient, évidemment, ça permet de l'investissement. D'autre part, l'argent des immigrés qui était envoyé au Portugal, ça permettait la constitution d'un marché. C'est-à-dire que pour les industriels portugais dans les services, vous n'imaginez pas comment l'industrie du ciment s'est développée au Portugal dans les années 70. Que beaucoup de ces Portugais, qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur argent ? Ils ont fait construire des maisons. Et donc, il y a beaucoup de secteurs d'activité au Portugal qui ont subi un certain boom grâce à cet argent. Ça a créé un marché qui était quasiment inexisté auparavant. Et pour les industriels portugais, c'était qu'il y avait un marché, un public solvable très limité. Tout à coup, vous avez une population qui a de l'argent et qui peut en dépenser. Et cet argent, grosso modo, était présenté comme le fer de lance de l'industrialisation portugaise. Cet argent avait des effets pervers, mais je ne vais pas l'évoquer ici. Et donc, cette manière de voir était défendue par le ministère du Travail, qui était plein d'économistes, et qui disait donc, il faut cesser de prendre l'immigration comme un problème, au contraire, de l'accompagner. Faire que les Portugais qui quittent le pays ne partent pas clandestinement, parce que ça a beaucoup d'effets pervers. Un Portugais qui quitte le pays clandestinement, c'est un Portugais qui s'endette. Parce que pour venir en France, jusqu'en 65-66, ça coûtait extrêmement cher. C'est-à-dire que comme il faut bien avoir à l'esprit que les Portugais, quand ils venaient en France, ils devaient passer deux frontières. Frontière entre le Portugal et l'Espagne, frontière entre l'Espagne et la France. Mais surtout, à la limite, je vous dirais que ce n'est pas le plus difficile presque. Jusqu'en 65, ils devaient traverser toute l'Espagne de façon clandestine. Ce qui fait que beaucoup de Portugais, jusqu'à cette date-là, ont traversé l'Espagne dans des camions à bestiaux, en traversant toute l'Espagne à pied la nuit. Peut-être que vous avez fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais c'est long et c'est fatigant. Et après, parfois, traversé par la Pyrénée, etc. Il y a de nombreuses personnes qui sont décédées pendant ce voyage. Et surtout, il fallait payer des passeurs, et ça coûtait 12 000 escudos. Donc, vous n'avez pas la notion des prix, mais c'était une somme énorme à l'époque. D'autre part, comme ces migrants venaient en France clandestinement, évidemment, ils se faisaient plus facilement exploiter par leurs employeurs en France. Il y a beaucoup, une partie du patronat français qui a bénéficié d'une main-d'œuvre totalement bridée au point de vue politique et syndical. Des gens qui voulaient surtout trouver un emploi, quel qu'il soit, pour commencer à gagner de l'argent et commencer à payer ses dettes, les dettes contractées pour pas venir en France, et surtout qui voulaient surtout pas avoir de problème avec la police, ni française ni portugaise, et qui donc ne faisaient pas grève. Et le patronat français j'ai vu de nombreux rapports, était extrêmement réjoui de cette main-d'œuvre portugaise, qui était beaucoup moins syndicalisée que la main-d'œuvre française, mais aussi espagnole, mais aussi italienne, etc. Et pour ces technocrates, c'est un problème, ça. C'est-à-dire que cette main-d'œuvre bridée a gagné moins d'argent et elle avait tendance à avoir moins de droits sociaux. Et donc, ça posait des problèmes, ça faisait moins d'argent qui revenait au Portugal. Il y avait un autre problème, et ce problème-là, il va être mis en avant par le ministère des Affaires étrangères. C'est-à-dire que le ministère des Affaires étrangères va aussi contribuer à transformer la vision des migrations. Le rôle d'un ministère des Affaires étrangères, et notamment des ambassadeurs, est de répandre une bonne image de votre pays. Vous imaginez, si vous êtes un jour, vous devenez ambassadeur de France au Japon ou en Suède, votre rôle, c'est de faire que la France ait une bonne renommée dans votre pays où vous êtes. Imaginez que pour l'ambassadeur du Portugal en France, le fait que quotidiennement arrivent clandestinement des personnes dans des camions à bestiaux qui arrivent à pied par les Pyrénées, qui s'entassent dans des bidonvilles comme celui de Champigny, qui acceptent les travaux que personne ne veut, ça renvoie une image assez peu flatteuse de votre pays. Or, jusque dans fin des années 50, le Portugal avait une image assez positive en France, c'est-à-dire en comparaison avec l'Espagne. C'est-à-dire qu'en France, notamment à gauche, il y avait une très forte mobilisation et une image très négative de l'Espagne de Franco, à cause notamment de la guerre civile espagnole, à cause de toute la mobilisation qu'il y avait eu entre 36 et 39. Salazar, à l'époque, il y a très peu de travaux sur Salazar, très peu de livres sur Salazar, et quand il y a des livres sur Salazar en France, c'est pour en dire du bien, plutôt. Et la dictature salazariste, avec ses ambassadeurs et ses instruments de propagande, avait réussi à faire passer le discours que le Portugal était un pays certes pauvre, mais heureux, et que le Portugal était bien géré par Salazar, qui était présenté comme un dictateur paternaliste, assez bienveillant vis-à-vis de son peuple. Cette propagande, qui a connu un succès, va complètement être brisée en éclats dans les années 60. C'est-à-dire que pour une grande partie de l'opinion publique française, et notamment dans la presse, même dans le Figaro, c'est dire, parce que le Figaro était plutôt favorable à Salazar, le fait que des gens viennent dans ces conditions en France montrait qu'une, le Portugal était vraiment un pays pauvre, mais que les gens n'étaient pas heureux, et qu'ils étaient prêts à tout, notamment pour éviter les guerres coloniales et éviter la misère dans laquelle ils vivaient. Et ça, notamment, ça posait un problème diplomatique pour le Portugal. Parce que le Portugal, notamment pour ses guerres coloniales, avait besoin d'armes. Et à votre avis, qui vendait des armes au Portugal ? La France et l'Allemagne. Et notamment, la grande peur des diplomates, c'était qu'il y ait une sorte de campagne publique contre l'aide fournie par la France au Portugal et que cela amène la France à réduire ses ventes d'armes. C'était la grande peur du Portugal. Et donc, les diplomates disent, les gens viennent. Alors, soit on les interdit de venir vraiment et on applique les lois, soit s'ils viennent quand même de façon clandestine, on les laisse venir légalement. Et qu'ils viennent comme les Espagnols, qui étaient aussi une dictature, comme les Italiens, comme qui vous voulez, mais qui viennent de façon légale et qui trouvent rapidement un logement et qu'ils ne s'entassent pas dans les bidonvilles. Et cette manière de transformer le problème de l'immigration va faire qu'il va y avoir d'énormes luttes au sein de l'État portugais, des commissions interministérielles, etc., etc. Et cette vision négative de l'immigration, je vais terminer sur ça parce que j'ai bientôt fini mon heure, va être transformée qu'à la fin des années 60. Et notamment, si elle ne se transforme pas, même si la vision passéiste, mercantiliste est complètement dévalué, c'est que Salazar reste au pouvoir jusqu'en 68, et que tant qu'il reste au pouvoir, il ne change pas ça. C'est-à-dire qu'il ne veut pas montrer à la bourgeoisie agricole qu'il la lâche, ce qu'il a fait plus ou moins, mais il ne veut pas le dire. Et il veut maintenir l'idée que le gouvernement est contre la dictature. Salazar tombe d'une chaise en 68, il ne peut plus gouverner parce qu'il a des problèmes cérébraux, et il est remplacé par un autre dictateur, par Caetano, qui lui modifie. C'est-à-dire que Caetano, lui, c'est un peu l'héritier, c'est un des figures de proue des modernisateurs, ceux qui considéraient que pour sauver la dictature, il faut moderniser. Et l'émigration va être présentée complètement différemment. D'une part, on va retirer au ministère de l'Intérieur la responsabilité de l'immigration. On va dire que l'immigration, ce n'est pas un problème de police. C'est un problème de travail. Et donc, ça va être au ministère du Travail de s'en occuper. Et surtout, on va libéraliser l'immigration. On va signer un accord de main-d'œuvre avec la France. On va faire que l'immigration clandestine n'est plus un crime. Mais on ne va pas aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que, par exemple, notamment l'Espagne, à la fin du franquisme, va complètement libéraliser l'immigration. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus vraiment de problème d'immigration clandestine en Espagne. Au Portugal, ça ne va pas être le cas jusqu'en 1974, parce qu'il y a les guerres coloniales. Et qu'on a toujours la crainte que les jeunes gens partent en France pour ne pas faire l'armée. Mais, sauf en ce qui concerne les jeunes de moins de 21 ans, on va complètement ouvrir l'immigration. Et dès avant la 25 avril 1974, la fin de la dictature, commence déjà à poindre ce qui va être développé dans les fin des 70, début des années 80, un discours de l'héroïsation des migrants. Au début, fin des années 50, les migrants sont des subversifs, sont des gens qui remettent en cause l'ordre. Au début des 70, les migrants deviennent des héros. C'est-à-dire qu'il y a tout un discours public qu'on retrouve dans de nombreux pays d'émigration, qui vont présenter les migrants comme ceux qui osent, qui ont le courage, qui ont l'initiative de partir à l'étranger, pour non pas seulement pour eux et pour leur famille, mais pour le développement du pays. Et ce discours, ensuite, va devenir le plus important après 1974, où là, dans le nord du pays, on va faire des statues en hommage à l'immigrant. Il va y avoir des places en hommage des immigrants, et on va présenter les immigrants un peu comme une sorte de fer de lance du Portugal moderne. Ça fait exactement une heure que je parle, donc je vais en terminer là, et si vous avez des questions, je les attends bien volontiers. Merci.
Merci beaucoup. Bon, tu sais que la question des migrations portugaises est une question qui a longtemps préoccupé le migrantaire. Hein. Tu connais les va-et-vient identitaires de Marina, les travaux de Nathalie Kotlok, sur Madère notamment, etc. En tout cas, merci à toi. Et on va peut-être commencer par des questions de la salle.
C'est très simple. Pourquoi plus la France que d'autres pays ?
Je réponds maintenant, je réponds à ça.
Comme tu le souhaites.
Je réponds là. Pourquoi plus la France que d'autres pays ? Alors, je peux donner une réponse complètement simple, parce que je suis né en France. Non, mais après, plus sérieusement, parce qu'entre 50 et 74, le principal pays de destination de l'immigration, c'est la France. 900 000. Il n'y en a que 180 000 en Allemagne. L'immigration portugaise vers le Luxembourg, c'est à la fin des années 70, et c'est en fait la France qui canalise certaines années jusqu'à 75% des flux migratoires. Donc c'est ce qui est. Et notamment quand au Portugal on parle de problème de l'immigration, c'est toujours à la France qu'on évoque. Parce que notamment l'immigration vers l'Allemagne, qui date plutôt de la fin des années 60 et début des années 70, ne pose pas vraiment problème au Portugal, parce que c'est une immigration qui se fait dans le cadre. Comme vous savez, en Allemagne, il y a le système des Gastarbeiters. C'est-à-dire des gens qui vont en Allemagne travailler avec des contrats de 6 à 1 an, à 1 an et demi, 2 ans, et qui reviennent au pays. Et l'Allemagne n'est pas connue au Portugal, et n'a jamais vu ça comme un pays très politisé. On ne craint pas que les immigrants portugais se politisent en Allemagne. Et on sait très bien qu'ils vont revenir, et qu'il n'y aura pas de problème avec eux. La France a une vision complètement différente. Donc c'est parce que c'est le pays le plus problématique et le pays où il y a le plus de migrants. Voilà.
Merci. Est-ce que, pour le coup, est-ce que tu fais le parallèle avec ce qui s'est passé en France au moment où l'immigration algérienne, je te parle du temps colonial, et restreinte par le pouvoir colonial après la guerre de 14 dans les années 20, qui mobilise absolument les mêmes stratégies. Les stratégies de procédures administratives longues, les stratégies de demander des photographies, etc., que tu connais bien évidemment, les stratégies aussi de criminaliser et la crainte permanente. Est-ce que tu crois qu'on peut faire un parallèle avec aussi un État colonial dans d'autres contextes, dans d'autres situations, qui va mobiliser son administration contre la capacité de régulation des choses, en fait, est-ce que tu l'as fait, est-ce que tu...
Effectivement, je pense que vous connaissez peut-être les travaux de Geneviève Massin-Guibault, qui a fait un article notamment montrant pourquoi, comment sont mobilisés une partie des propriétaires agricoles colons en Algérie pour empêcher le départ de la main-d'œuvre. Et notamment, il y a énormément d'arguments qui sont identiques. C'est-à-dire que s'ils vont en France, d'une part, ça va augmenter les salaires. S'ils sont en France, ils sont trop bien traités. Donc, quand ils vont revenir, ils vont devenir indociles. Et sur la moralité, etc., ils vont les mœurs plus relâchées qu'il y aurait en France. Et effectivement, il y a un des problèmes que je ne vous ai pas évoqué, c'est que le Portugal ne peut pas faire ce qu'a fait la RDA. Que pour la RDA, ça a été, entre guillemets, un peu plus simple. C'est-à-dire que la RDA, l'Allemagne de l'Est, a été confrontée à un problème de très forte immigration, qui sapait notamment le pouvoir communiste et qui posait vraiment un problème idéologique. Et la RDA a fait un mur, ce qui a plus ou moins réglé le problème. Ce qui est étonnant, c'est qu'on aurait pu penser que le Portugal allait faire la même chose. S'il ne veut pas que les gens partent, il n'y a qu'à faire un mur. Ou il n'y a qu'à mettre des barbelés. Ça ne coûte pas très très cher de faire des barbelés, c'est pas une solution technique impossible. Et vous allez peut-être pas me croire, je n'ai jamais vu personne proposer de faire des murs barbelés. Et j'ai vu jamais personne dire qu'il faut faire un texte qui interdit l'immigration. Parce que un des problèmes du Portugal, c'est qu'après 1945, comme vous le savez, le Portugal et l'Espagne, c'est les deux seules dictatures qui restent du temps du fascisme et du nazisme. Et cette dictature qui commence à repeindre un peu la façade. Et notamment en Portugal, on dit que c'est une démocratie organique. Ça ne veut rien dire. Et on essaye de montrer et de retirer les éléments les plus répressifs. Et notamment, cette jeune d'immigration a vraiment le souci de toujours que toutes les lois ou tous les décrets prétendent que le droit de l'immigration est respecté au Portugal. C'est un principe libéral du 19e siècle, le droit de l'immigration, le droit de quitter un pays pour éviter la tyrannie. Et au Portugal, tous les textes disent qu'on a le droit d'émigrer. C'est jamais. Mais donc, en fait, on trouve toujours tout un arsenal administratif. Et c'est un peu la même chose que tu dis avec l'Algérie. C'est-à-dire qu'il y a un problème, notamment les Français musulmans algériens, ils sont sujets. Et donc, en fait, ils ne sont pas citoyens. Mais donc, on ne peut pas vraiment leur interdire crûment, leur dire vous ne pouvez pas aller en métropole. Alors qu'ils sont Français. Et donc, on trouve énormément de difficultés administratives qui, de fait, rendent cette immigration impossible, sans jamais le dire clairement, parce qu'on ne peut pas le faire.
Attends, je te l'amène, Marina. D'autant plus qu'en 61, on sait faire des barbelés.
Ah, on sait très bien.
Non, mais là, juste une précision, c'est que Moko le décrit finalement assez bien, c'est que c'est les colons. Les colons qui résistaient, particulièrement ceux qui dirigeaient les grands domaines, résistaient à l'État français, enfin l'État, faudra rentrer dans le détail, et sa petite parenthèse, tu l'as bien montré, à savoir que l'État n'est pas homogène et souverain, bien au contraire, puisqu'on voit bien les contradictions internes, bon, peu importe. Mais donc en Algérie, c'était le colon qui ne voulait pas que leurs ouvriers partent. Et on le voit extrêmement bien dans Moko, c'est extrêmement bien décrit. Voilà, je crois que ça c'est une précision importante, ce qui est d'ailleurs intéressant, hein, puisque les colons étaient français et relativement proches aussi de l'État français. Voilà. Donc moi j'aurais une petite question, dis au passage. Non, je trouve assez intéressant de faire une lecture, de refaire une lecture de l'émigration sous Salazar et après. En interrogeant, notamment en prenant une problématique qui est relativement contemporaine, Gosfield. Moi, quand j'ai travaillé sur le Portugal, c'est certain que vous connaissez pas de Gosfield. Ce qui d'ailleurs me semble intéressant, c'est que tu abandonnes très vite l'idée de l'événement public. Hein, ça arrive à problème public, parce que c'est pas complètement vrai dans ton historiographie et la manière dont tu présentes le rôle du gouvernement Salazar, et particulièrement, bon, évidemment, dans la gestion, dans la régulation, entre guillemets, dans la tentative de régulation de l'immigration, tu abandonnes complètement cette idée de qu'est-ce qui fait problème dans l'espace public. Hein. Tu laisses complètement tomber. Juste, tu le cites au début, puis après, bon, tout simplement pour te dire que, bon, après tout, on n'a peut-être pas besoin de ce que tu fais. Bon, ça, c'est une autre paire de manches. Mais tout simplement pour. C'est une autre paire de manches. Reste quand même, là où je voudrais te demander peut-être un peu plus de précision, c'est sur la. Sur le rôle, évidemment, tu l'as dit, de l'apport extrêmement important des colonies et de la perte de vitesse déjà dans les années 50, la perte de vitesse du pouvoir portugais sur les colonies, parce que c'est dans le grand mouvement de la décolonisation. On ne voit pas pourquoi le Portugal échapperait aussi à ce grand mouvement de colonisation. Et puis, deuxième aspect, c'est quand même sur les forces économiques extrêmement importantes. Et le troisième aspect, c'est que malgré tout, les barrières et les barbelés juridiques, idéologiques, etc., etc., ils partaient. Et ils sont partis. Avec le passeport de lapin, comme on dit, mais ils partaient. Voilà.
Vas-y, je passerai après. Si
tu veux. D'accord. Bon, après, si j'ai pas plus utilisé ensuite Gosfield et tout, c'est aussi pour des modalités de discours pour parvenir. Mais sur les colonies, effectivement, le problème en histoire, quand on fait de l'histoire, c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes étudiants, c'est la téléologie. C'est-à-dire que quand on sait déjà la fin de l'histoire, ça peut nous paraître complètement absurde. Mais j'ai vu des discours du 23 avril 1974, donc 2 jours avant la Révolution, du ministre du Travail qui disait qu'il faut que les Portugais aillent plutôt vers colonie. C'est-à-dire que, effectivement, ça peut nous paraître complètement absurde, mais les élites gouvernementales, une partie d'entre elles du moins, faisaient tout pour maintenir la présence du Portugal dans les colonies, et ça tout, c'est-à-dire envoyer beaucoup d'hommes, mais dans les années, en 68, c'était un peu l'apogée, 42% du budget portugais est dédié à la défense des colonies. 42%. C'est un chiffre assez important. Et notamment, ils ont... C'est-à-dire qu'il y avait notamment une blague, entre guillemets, dans les colonies qui courait, qu'il fallait remercier les militants du MPLA, donc le mouvement de libération, du FNLA, etc., bon, tous les mouvements de libération, qui avaient obligé en fait, le Portugal à investir plus d'argent dans les colonies. C'est-à-dire que je connais les 50... Les investissements dans les colonies, le Portugal voyait plutôt les colonies comme un moyen d'obtenir du café, du cacao, etc., etc., du coton, et ont très peu investi. À partir des années 50 et surtout des années 60, il y a eu des investissements massifs dans les colonies. Ils ont fait des routes, ils ont fait etc., etc., parce qu'ils voulaient maintenir. Et notamment, ils ont fait un énorme barrage au Mozambique, qui n'était pas complètement terminé le 25 années 74, et ils incitaient vraiment. Et ça peut nous paraître très étonnant, mais l'immigration portugaise de la métropole vers la colonie, elle connaît une sorte d'augmentation à partir des années 50. En toute fin. Et après, effectivement, ça a mis des populations souvent pauvres, en plus, dans des situations très difficiles, puisqu'ils sont arrivés dans les colonies. Et en 74-75, Yann connaît très bien ce sujet, ont dû revenir, pour ceux qui venaient du Portugal, ou aller ensuite en Afrique du Sud, ont dû quitter l'Angola et le Mozambique. Donc, effectivement, il y a cet élément qui est très important.
Des plans de Constantine multiples, donc.
Exactement. C'est une influence pour les Portugais.
Victor, peut-être deux questions. La première porte sur ce que Poinard, je crois, avait qualifié de la culture migratoire, le savoir-faire migratoire, le savoir circuler, si je rappelle bien, des Portugais. Lié à cette très vieille tradition d'expatriation, enfin de sortie de la métropole des Portugais pendant 5 siècles sans interruption, donc vers le Brésil notamment. Et donc, il considérait, me semble-t-il, que ce qui se passait à l'époque contemporaine était au fond dans la continuité de ces mouvements qui étaient quasiment constitués comme une culture. sur place, quoi. Donc c'est la première question. La deuxième question, c'est relatif à la France. Pourquoi la France ? Mon voisin qui a posé la question. Et moi, j'avais lu une des explications possibles qui était liée, en fait, à la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, le Portugal est très lié, non pas à la France, mais à l'Angleterre. C'est une vieille tradition, je crois, qui est au moins antérieure à Napoléon. Et donc, il y a les liens historiques entre les deux puissances, enfin les deux pays, les deux nations. Et donc, ça serait assez naturellement que les Portugais seraient venus aux côtés des Alliés pendant la guerre. Il y a à peu près, je crois, 15 à 20 000 ou 30 000, je ne sais plus les chiffres exactement maintenant, portugais, soldats portugais constitués en légion qui sont venus combattre sur le front en France. Je crois que la moitié est morte en France, à peu près, peut-être bon. Et que si à la fin de la guerre, une partie est rentrée, une partie est restée, serait restée, et que surtout, serait en fait en quelque sorte contribué à ouvrir les horizons migratoires des Portugais par rapport aux destinations classiques comme celle du Brésil. On pourrait en voir en quelque sorte une preuve supplémentaire aussi dans d'autres pays, dans d'autres régions, je dirais plus exactement, notamment en Afrique du Nord, où on a vu qu'après la Première Guerre mondiale, un certain nombre de gens qui n'avaient jamais migré, du fait de la mobilisation des Algériens, des Marocains et des Tunisiens sur le front français, parfois de manière forcée, eh bien, ensuite, après, ce n'est pas valable pour les Tunisiens, mais c'est valable pour certaines régions d'Algérie et du Maroc. On a vu après, au cours de l'entre-deux-guerres, ou après la Deuxième Guerre mondiale, des filières se constituer vers la France, alors que c'était totalement exclu des horizons culturels de l'époque. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses de la validité de ces propositions ?
Donc les deux questions sont comparties, donc je vais répondre dans le même mouvement. Effectivement, la tradition migratoire portugaise était surtout vers le Brésil, jusque dans les années 1950, très largement. Et à la limite, il peut paraître étonnant que notamment en France, à la fin du XIXe siècle, il y a une très forte immigration italienne qui a succédé aux Belges, aux Suisses, à tout ce que vous voulez. Dans l'entre-deux-guerres, il y a beaucoup d'Espagnols qui sont en France. Et que jusque dans la fin des années 50 et 1960, la France ouvre une décision marginale dans le panorama des migrations portugaises. Alors, marginale, il y en avait quand même une. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, on peut dater, alors il y a d'autres, quelques centaines de Portugais qui étaient déjà venus auparavant, mais que le début, c'est 1916, quand le Portugal envoie à la fois des soldats, 50 000, pour se battre dans les Flandres, et beaucoup d'entre eux mourront ou seront blessés, et également des travailleurs, 13 800, je crois que c'est des chiffres. Et à partir de là, certains de ces travailleurs ne rentrent pas, se marient avec des Françaises, etc. Et ça forme un peu un premier noyau qui, alors là, c'est pour ça que les deux questions vont ensemble, qui après vont amener notamment des débuts de réseaux migratoires. Alors là, comme j'ai la spécialiste de la question, je ne vais pas développer, puisque Tilly a fait un livre de la vieille dignitaire qui montre bien comment ça marche. C'est-à-dire que souvent, l'élément le plus prégnant, en fait, quand on parle d'immigration, moi je parle d'immigration portugaise, ce n'est pas la catégorie la plus prégnante, la plus importante. Pour vraiment comprendre l'immigration portugaise, c'est au niveau du village. Et maintenant, j'habite à Pau. Une grande partie des Portugais qui habitent à Pau viennent du même village presque, Quelig, à côté de Viseu. Quasiment une grande partie d'entre eux. Et à partir de là, vous avez des villages ou des régions, mais souvent c'est des villages, qui se spécialisent dans un réseau. Alors vous avez de tels villages à côté de Viseu qui va à Orsay et à Pau, après une circulation après, en fonction, et donc il y a souvent des travaux d'anthropologues qui, en fait, leur objectif, ce n'était pas d'étudier l'immigration, mais qui vont utiliser tel village au Portugal ou deux villages pour les comparer. Et en fait, ils se rendent compte que, quand vous faites un travail d'anthropologie, observation participante, vous occupez aussi des gens qui reviennent à l'été et vous vous rendez compte que beaucoup des migrants sont dans le même village ou la même ville en France. Alors après, une petite dispersion en fonction du marché du travail en français, mais il y a quand même certains territoires, mais donc pour revenir des savoir-faire migratoires qui sont mis en place et qui parfois durent de très longues années. Et certains qui se mettent en place, puis sont endormis, sont en retrait, notamment. Donc, il y a, après la Première Guerre mondiale, il y a une certaine expansion de l'immigration française, portugaise en France, pardon, jusqu'à la crise économique de 1929, qui touche la France à partir de 1931. Et là, statistiquement, ça se voit, il y a un retrait. y a même des expulsions. Dans le livre de Philippe Rigiel, sur l'expulsion, il montre qu'il y a beaucoup, notamment le département qui a beaucoup étudié, le Cher, il y a beaucoup de Portugais qui sont expulsés. Et par la suite, il y a un retour assez timide de l'immigration vers certains points après 1945. Mais qui est très timide, hein, quand on regarde les statistiques portugaises, c'est des centaines de personnes. Mais très souvent, des gens qui reviennent ou des gens qui ont de la famille et mais qui remettent. Et tout ça, ça va se multiplier dans les années 60. Donc à la fois, il y a, c'est ce qu'on fait souvent les études migratoires, à la fois. C'est à la fois par le bas, par le haut. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut prendre ce qu'on dit, l'agency, les agents, les cultures, leurs stratégies, etc. Mais, et pour répondre à la deuxième question, il y a pour moi quelque chose de fondamental, qui est l'attitude du gouvernement français, à partir de la fin des années 50 et surtout des années 60. C'est-à-dire que le gouvernement français va tout faire pour que les Portugais viennent massivement en France. Tout faire, ça va être surtout fermer les yeux sur leur arrivée clandestine, et même, après signer des accords de main-d'œuvre, mais comme le Portugal rechigne, soit les signer, soit les appliquer, ça va être tout faire. Et donc ça, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est dans les notes, c'est noir sur blanc. C'est-à-dire que dans une partie des hauts fonctionnaires français, et notamment chez une personne que vous connaissez, qui s'appelle Georges Pompidou, et ça tombe bien, il était à la fois Premier ministre puis Président de la République, donc dans ma période, c'est un élément fondamental de 62-74, Pompidou, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, a la ferme volonté de maximaliser la venue des migrants portugais. Et une des raisons qui est notamment avancée dans les notes, c'est une vision géopolitique des migrations européennes. C'est-à-dire qu'il y a eu les Belges, il y a eu les Suisses, il y a eu les Italiens, il y a eu les Espagnols. Et comme vous le savez, les flux espagnols, d'abord les Italiens plus espagnols, ça starie dans les années 60. Et dans la tête des gouvernants, les Portugais, étant donné qu'à l'époque, la Pologne, etc., c'est de l'autre côté du... Bon, ça compte pas. Le Portugal est le dernier pays qui, on va pouvoir, c'est écrit clairement, réservoir. C'est le dernier réservoir de main-d'œuvre. Main-d'œuvre qu'on veut. C'est-à-dire, les Portugais, comme vous le savez, sont blancs, sont catholiques et on leur donne beaucoup de qualités. Et sont travailleurs.
Pas algériens.
Et pas algériens. Mais là, exactement. Mais la remarque pas algérien est très claire. C'est-à-dire que très vite va être mise en avant une opposition. Le portugais, alors, très souvent quand je fais des conférences, on me le dit toujours au bout d'un moment, ah, les Portugais sont bien intégrés, etc. Bon, ça, c'est un long débat que je ne vais pas évoquer. Mais dès les années 60, il est écrit noir sur blanc que les Portugais sont assimilables et bien intégrés. Alors, comme vous savez, l'intégration, ça implique du temps, des années, voire des décennies. Les Portugais, tout de suite, on leur met un tampon intégré. Tout de suite. À peine, ils sont arrivés à Hendaye, ils sont déjà arrivés à Gare de Biarritz, ils sont intégrés. Tandis que, en fait, et tous les discours, du moins les notes, sont faites en opposition à. Et l'opposition, c'est les Algériens. Et dans certaines notes, c'est dit clairement. Plus on fera venir de Portugais, moins viendront d'Algériens. Et 62, c'est notamment avec la libre circulation Évian. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que notamment, comme vous le savez, à 62, il y a la libre circulation. Je pense que Yann a dû vous en parler. Donc. Et surtout après, différents soit accords, soit traités avec l'Algérie, qui restreignent le nombre, notamment 71, si je m'abuse, c'est 35 000, 70. À l'inverse, la France signe des accords avec le Portugal en 71, c'est 65 000. C'est-à-dire que autant on essaie de limiter de façon réglementaire l'avenue des Algériens, et notamment on met toutes, notamment le début de la lutte des sans-papiers, les lois, les circulaires Fontanet et Marcellin. Moi j'ai vu notamment les notes, il est écrit noir sur blanc dans les notes qui sont envoyées par le cabinet de Pompidou, les circulaires Fontanet et Marcellin ne s'appliquent pas aux Portugais. C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas vous raconter les circulaires, mais c'est fait pour limiter l'immigration clandestine, mais ça ne s'applique pas aux Portugais. Et donc, l'idée est vraiment celle-ci. C'est-à-dire que les Portugais, dans une vision, sont vus comme les derniers Européens qui vont bien s'intégrer. Et ça empêche un peu un jeu de vases communicants. Plus il y aura de Portugais, moins il y aura d'autres immigrations. Et ça, c'est clairement dit. Et c'est pour ça que donc, la solution qui est prise, c'est de faciliter l'immigration. Et en 64, Pompidou, le cabinet, impose au ministère de l'Intérieur. Souvent, le ministère de l'Intérieur veut faire appliquer des lois. C'est un peu... Et notamment les lois sur l'immigration. Et le cabinet impose, mais vraiment impose, parce qu'il ne voulait pas, au cabinet de M. Roger Frey, une circulaire qui oblige à tous les préfets, notamment les préfets du Sud-Ouest, à a donné un récépissé à tous les Portugais qui rentrent en France, même s'ils n'ont pas de passeport, même s'ils n'ont pas de pièce d'identité. S'ils n'ont rien du tout, ils peuvent rentrer en France. Et jusqu'en 1974, voire même après, les Portugais ont un régime complètement dérogatoire. C'est-à-dire que si autant de Portugais viennent en France, c'est qu'au bout d'un moment, ces réseaux migratoires qui existaient mais qui étaient assez limités, bah, va faire que pour un Portugais, si vous pensez deux secondes à un Portugais du nord du Portugal qui vit dans la petite agriculture et surtout après 65. Parce qu'à partir de 65, l'Espagne cesse de contrôler l'immigration clandestine portugaise, ce qui va tout changer. Pour un Portugais au nord du pays, l'immigration, qui vit dans des conditions difficiles, ou même s'il vit dans des bonnes conditions, il peut très facilement arriver en France parce que les réseaux de passeurs fonctionnent assez bien, qui a moins de risques, que le prix a baissé au cours des années 60. Et il sait très bien qu'en France, il rentrera sans aucun problème en France, qu'en France, j'ai trouvé dans les archives notamment beaucoup de petits bouts de papier qui ont été pris par la police, où il y avait un petit bout de papier où des migrants avaient une adresse, avec notamment une ville que vous ne connaissez pas, mais qui s'appelle Saint-Pigny. Saint, c'est Saint, et Pigny. En fait, c'est les gens qui prononçaient mal et qui pensaient que Champigny, c'était Saint-Pigny. Avaient une adresse, arrivé au bidonville, qui a servi en partie des années 60 comme élément de réception et de redirection des Portugais. Et les grandes entreprises allaient en camionnette chercher leurs ouvriers. Et ils savaient très bien qu'ils arriveraient en France sans problème, qu'ils pourraient régulariser leur situation, carte de séjour, carte de travail. Il fallait attendre toute une nuit pour de la chapelle, toute une nuit, mais ça se faisait. Et emprunteraient très rapidement un emploi, rembourseraient leurs dettes, pour envoyer de l'argent, etc. C'était très facile. C'était quasiment plus facile pour un Portugais de venir en France que d'aller trouver un emploi, notamment à Lisbonne, en banlieue, etc. Ou parfois, ça se joignait, en fait. Des gens allaient d'abord à Lisbonne gagner de l'argent. Puis, Et donc, ce qui fait que la France a tout fait pour favoriser, en fait, s'est appuyée sur ces réseaux migratoires, sur cette culture de la mobilité, pour maximaliser l'immigration. Donc, en fait, ça fait pourquoi la France ? Ça répond. C'est à la fois une conjonction de l'efficacité des réseaux migratoires et des politiques publiques, tant portugaises, qui sont très ambiguës, espagnoles, avec la fin des contrôles en 65, et françaises.
Exactement. Merci mille fois. Merci. À bientôt. Merci.